Bien, alors pour commencer, désolé pour ce retard. Prochaine fois, je serai parfaitement à l'heure. Je vous remercie d'être venus aussi assez nombreux pour m'écouter. Écoutez, on aura 5 séances normalement sur la Chine. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, la Chine, c'est un gros morceau. Hein, c'est quelque chose quand même de relativement important, dont on parle beaucoup, qui joue un rôle, évidemment. Là, je vous dis des lieux communs qui sont vrais. On verra qu'il y a beaucoup de lieux communs qui ne sont pas vrais, mais il y a aussi des lieux communs qui sont vrais. Que la Chine, aujourd'hui, joue un rôle, évidemment, très important dans le monde. La Chine inquiète, la Chine développe, la Chine deviendra peut-être un jour la banquière du monde. Hein. On aura une banquière, parce qu'à maintenant, on n'avait que des banquiers, on aura des banquières. Donc, c'est une société, évidemment, en plus, qui est très ancienne. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'histoire, évidemment, de la Chine. C'est pas ce qu'on va faire ici, en dehors de deux ou trois allusions de temps en temps que je donnerai concernant l'histoire de la Chine. C'est bien de la Chine contemporaine que nous allons parler, mais en même temps, on ne peut pas faire complètement, évidemment, fi de cette histoire qui joue un rôle très important, ne serait-ce que par le fait, par exemple, que beaucoup de touristes vont en Chine. Hein, si aujourd'hui... Encore un peu plus fort même. Encore un peu plus fort. Pourtant, j'ai habituellement... on considère que j'ai une grosse voix, mais peut-être que je me féminise. Effectivement, bon, si cette Chine n'avait pas cette histoire-là, les gens iraient sans doute moins faire du tourisme, s'intéressent sans doute moins à ce pays. Donc l'histoire joue évidemment un rôle important. Donc évidemment, comme c'est un gros morceau, la Chine, et comme on n'a que quelques heures de cours, quelques heures de dialogue, nous n'arriverons pas évidemment à couvrir l'ensemble des problèmes, l'ensemble des questions que vous vous posez. Donc ce sera plus un défrichage un petit peu d'une certaine façon qu'autre chose que l'on fera pendant ces cours. Peut-être deux trois mots de bon vous avez une présentation je crois de mon curriculum peut-être ajouter deux trois choses, je ne me souviens plus exactement ce que j'avais mis. Donc effectivement, je travaille sur la Chine depuis quand même pas mal d'années. Donc je suis directeur de recherche à Sciences Po, j'enseigne aussi d'ailleurs la société chinoise, et je reviens de presque 9 ans de séjour en fait en Chine en deux morceaux, qui a été interrompu par un retour en France mais assez court, où j'ai enseigné les deux fois dans une université chinoise, donc ce qui m'a permis d'avoir des étudiants chinois. Pas cette fois-ci d'enseigner la Chine à des Français ou à des Européens, mais d'enseigner l'Europe, l'histoire sociale de l'Europe, l'histoire des mouvements sociaux en Europe à des étudiants chinois, ce qui aussi m'a permis d'avoir des étudiants en direction de master, il est master maintenant, donc qui est évidemment extrêmement intéressant aussi parce que ça permet d'aller avec eux sur le terrain, de voir comment ils envisagent les choses et d'avoir une certaine intimité, je dirais, tout à fait respectueuse bien entendu, mais une certaine intimité tout de même avec ces étudiants chinois. Et y compris avec leurs parents aussi d'ailleurs, parce que bon, on aura évidemment l'occasion d'en parler, mais les parents jouent un rôle très important aujourd'hui dans la vie des jeunes gens, et évidemment les parents sont toujours extrêmement redevables, ils se sentent redevables auprès des professeurs de leurs enfants, et j'étais régulièrement couvert de cadeaux. Et j'avais souvent l'occasion de rencontrer ses parents pour discuter dans lors de repas qu'ils m'offraient. Donc, une occasion d'être dans l'intimité d'une université, donc ce qui a évidemment été extrêmement important. Mon objectif ici, comme je disais tout à l'heure, la Chine c'est un gros morceau, donc mon objectif sera pas tellement d'accumuler des faits, de vous donner des dates. Bon, il faudra y passer par là, évidemment, à certains moments. Mais si on commence à rentrer dans l'histoire très précise de la Chine depuis 1949, hein, en se limitant même à 1949, on y passerait plusieurs heures, etc., etc. On n'arrivera pas à s'en sortir. Donc, plus que d'accumuler des faits, là, il y a des livres hein, là-dessus. Je pourrais vous en conseiller un certain nombre hein, sur l'histoire de la Chine depuis 1949. Il y a mon bouquin de Doménac et Richier qui est très bien là-dessus. Il y a des livres d'histoire. Si ça vous intéresse hein, de vous plonger dans l'histoire de la Chine, allez-y. Mais même si on se limite encore une fois à 1949 jusqu'à nos jours, c'est un gros morceau. Il s'est passé énormément, énormément de choses. Et en plus, il y a encore beaucoup de mystères. Hein. Il y a encore beaucoup de discussions chez les spécialistes qui ne sont pas du tout d'accord sur le rôle de Mao à tel moment, sur ce qui s'est exactement passé pendant la révolution culturelle, et même ce qui s'est passé dans les années 1978-79, et même ce qui s'est passé au moment de Tiananmen. Vous voyez, Tiananmen, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 20 ans. On ne sait pas trop encore. Hein. On manque de recul historique pour véritablement faire une histoire de cette période. Donc plutôt que d'accumuler des faits sur, finalement, des événements qui sont eux-mêmes encore aujourd'hui relativement mal compris dans leurs détails, l'objectif est plutôt de vous aider à de vous donner des pistes de réflexion hein, par rapport à vos lectures que vous pouvez avoir, notamment par rapport aux journaux, voire aux livres, voire aux débats auxquels vous pouvez assister parfois, à la télévision ou ailleurs, entre spécialistes ou entre pas spécialistes du tout, à propos de la Chine. Donc, comment on peut réfléchir, comment on peut comprendre cette société chinoise, c'est un petit peu le grand objectif, hein, de vous donner des armes pour essayer de comprendre ce qui se passe en Chine et puis de comprendre les débats aujourd'hui aussi qui tournent autour de la Chine, aussi bien en Chine d'ailleurs que dans notre pays. Et notamment, ça sera un peu mon point de départ, d'essayer de mieux comprendre ce que l'on a beaucoup de mal à comprendre dans les journaux et qui fait de la Chine un pays un peu bizarre. En effet, il existe tout un tas de paradoxes, hein, quand on lit des analyses de la Chine que l'on trouve un peu de partout, tout un tas de paradoxes, de choses un petit peu bizarres qui semblent aller à l'encontre du sens commun, du bon sens commun que l'on peut avoir par rapport à un certain nombre de réalités. Ce n'est pas les seuls paradoxes. Hein. Aujourd'hui, on a aussi, vis-à-vis de tout ce qui se passe dans les pays arabes, tout un tas de paradoxes, de choses bizarres qu'on a du mal à comprendre, hein, des gens qui font la révolution, qui après élisent des islamistes. Voilà, un truc bizarre quand même. Hein. Donc il n'y a pas que la Chine, il n'y a pas que dans l'analyse de la Chine que l'on voit apparaître des trucs qu'on a du mal à saisir et qui semblent tout à fait contradictoires. Par exemple, aujourd'hui, la Chine est sans doute un des pays les plus conservateurs politiquement. Hein, le système politique, quand on le regarde de près, quand on regarde les institutions, quand on regarde comment ça marche, c'est un dinosaure, hein, c'est quelque chose qui a finalement relativement peu changé depuis 1949, hein, quand on regarde encore une fois le système politique, hein, on a un parti communiste hein, qui monopolise l'espace politique, donc très conservateur. La population ici aussi, on y reviendra, ça c'est quelque chose que l'on ne dit pas assez, mais soutient globalement le système politique tel qu'il existe aujourd'hui, hein, globalement. Hein. Alors je sais qu'il y a peu d'études, évidemment, en termes d'opinion politique, mais on sait en même temps aussi le crédit que l'on peut accorder aux analyses en termes d'opinion politique. Hein. Beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus montrant que, même en France, les sondages, souvent, servent plus à manipuler l'opinion politique, finalement, qu'à véritablement produire, je dirais, une connaissance sur l'opinion publique. Il y a dernièrement Bourdieu qui a eu les textes de Bourdieu, les cours de Bourdieu à la Collège de France qui ont été publiés. Et un des textes, justement, réfléchit à cette question de l'opinion publique, comment l'opinion publique apparaît. Mais, effectivement, en Chine, évidemment, on a du mal à cerner une opinion politique. Hein. Alors certains disent que Internet, les blogueurs constituent les blogs, les Twitter locaux, etc., etc., constituent en fait une façon de connaître l'opinion publique. Là aussi, on y reviendra. Mais en tout cas, dans les discussions que l'on peut avoir avec des gens de différentes origines sociales, on est frappé par le soutien global. Il faut reconnaître les choses comme elles sont, qu'obtient le système politique actuel. En même temps, une chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre, c'est que les Chinois sont sans doute les plus contestataires citoyens du monde. Hein, quand on regarde le nombre de manifestations, de grèves, d'incidents, etc., la Chine est sans doute là, bon, comptabilité toujours différente parce qu'elle est difficile à faire, parce qu'on mélange les poires et les pommes, etc. Donc c'est compliqué à faire, mais enfin, on voit qu'il y a un nombre absolument considérable de mouvements sociaux qui éclatent, d'incidents. On voit aussi que les Chinois critiquent beaucoup tout un ensemble de choses, y compris leurs dirigeants locaux. Hein, ils rouspètent contre la corruption. Ils trouvent que leurs cadres, leurs fonctionnaires ne sont pas honnêtes, etc., etc. Donc on a du mal à comprendre. Hein. Ils vous disent d'un côté, nos dirigeants sont de très bons dirigeants, la Chine va dans le bon sens, vous nous parlez de démocratie, mais c'est pas pour la Chine, vous avez rien compris au pays. D'un autre côté, les mêmes peuvent vous dire, nos fonctionnaires locaux, tous des pourris, c'est affreux, etc., etc. Donc là aussi, on a du mal à comprendre un petit peu la situation. Autre élément, on parle sans cesse de l'égoïsme profond du Chinois. Hein. Quelqu'un qui penserait qu'il a gagné de l'argent, il serait obsédé par ça, qui serait complètement obnubilé par la réussite individuelle, etc. En même temps, on entend beaucoup de choses dans les journaux ou dans les livres sur la Chine ou dans les débats sur la Chine autour de la soumission un peu, qui serait un peu traditionnelle des Chinois vis-à-vis des institutions. Et notamment familial, c'est-à-dire que les gens auraient du mal à s'émanciper, je dirais, des institutions, dont l'institution familiale, mais aussi des structures politiques qui, au niveau le plus local, contrôlent la société chinoise. On a un autre élément aussi, on parle beaucoup de capitalisme sauvage, hein. Il y a même des gens qui disent que le capitalisme chinois est le plus sauvage qui n'ait jamais existé dans l'histoire. Ça c'est aussi, on se demande comment on peut faire ce genre de comparaison, c'est quand même extrêmement difficile. En même temps, l'économie chinoise est très largement contrôlée par l'État, hein, par les institutions politiques, par les administrations, etc., etc. Donc là aussi, on a du mal à comprendre. Autre élément, on parle beaucoup du nationalisme chinois, hein, chinois très fiers de leur pays, etc., etc. En même temps, beaucoup de Chinois pensent à partir à l'étranger. Hein. On sait qu'aujourd'hui, si on ouvrait les vannes des visas, il y aurait beaucoup, beaucoup plus de Chinois qu'il n'y a encore aujourd'hui. Il y a une forte migration chinoise. Beaucoup, beaucoup de gens à Pékin, de jeunes Chinois par exemple, apprennent le québécois. Ils n'apprennent pas le français, ils apprennent le québécois. Pourquoi ? Ben, pour aller s'installer à Québec, parce qu'il y a encore des possibilités, c'est en train de changer un petit peu, mais il y a encore des possibilités pour émigrer. Beaucoup de jeunes Chinois vont faire leurs études à l'étranger, etc. Donc comment peut-on être à la fois extrêmement nationaliste, fier de son pays, défendant tout un ensemble de choses, et en même temps, finalement prêt à tout lâcher pour partir et même pour obtenir la nationalité, une nationalité étrangère. Hein. Il y a eu notamment beaucoup de scandales il y a quelques temps en Chine autour du fait que quasiment toutes les stars du cinéma chinois aujourd'hui, ne sont plus chinoises. Hein. Ils ont obtenu la nationalité américaine, singapourienne, canadienne, australienne, etc., etc. Donc voilà, là aussi difficile de comprendre. Et puis bon, on pourrait multiplier comme ça, hein, bien entendu, tous les exemples. La Chine est une dictature sans dictateur. Ça, c'est quelque chose qui est quand même relativement intéressant, notamment quand on fait la comparaison avec ces pays. Ah, mais il n'y a pas de Moubarak en Chine. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'équivalent de quelqu'un qui monopolise avec sa famille et quelques personnes l'ensemble des opérations économiques. Ça, ça n'existe pas. Le secrétaire du parti, aujourd'hui, en Chine, a évidemment du pouvoir, évidemment, mais son pouvoir est très limité parce que la direction est extrêmement collégiale. Parce que avant de se mettre d'accord, il faut réunir tout un tas de gens, il faut connaître la vie de tout un tas de secrétaires du parti dans les différentes provinces, etc., etc. Donc, si vous voulez, on a des milliers, voire des dizaines de milliers, voire pourquoi pas d'ailleurs des millions de dictateurs en Chine, puisqu'il y a quasiment 80 millions de membres du Parti communiste en Chine. Donc si on considère que c'est le Parti communiste qui gouverne le pays, on pourra considérer qu'il y a 80 millions de dictateurs. Donc vous voyez cette difficulté, on pourrait dire, à mettre la Chine dans une petite boîte, hein, dans laquelle on pourrait relativement facilement expliquer d'une certaine façon à quel stade de développement se trouverait le système politique économique chinois. Alors, pourquoi ce phénomène-là? Est-ce que la Chine serait hors norme, hein, c'est ce qu'on entend souvent. Est-ce que la Chine serait, de par son ancienneté, sa culture, je ne sais quoi, en dehors du monde, finalement, hein? Est-ce qu'on peut comprendre ce pays? Faudrait-il changer cette réalité pour qu'elle soit conforme au sens commun, par exemple en envoyant une armée occidentale, hein, ou en matant les Chinois, hein, ces Chinois qui se développent économiquement, qui se développent socialement, mais qui ne veulent pas changer de système politique, hein, que faut-il faire par rapport à cette situation? Voilà, c'est une hypothèse. La Chine ne correspondrait pas, hein, d'une certaine façon, au modèle de réflexion, d'analyse, au modèle de réflexion et d'analyse que l'on utilise habituellement pour analyser les sociétés. Je poserais des questions différentes. Je dirais, est-ce que nous sommes sûrs d'analyser la Chine avec les bons outils? C'est un petit peu comme l'histoire, vous savez, de la démocratie et des élections. Hein. Quand les élections sont mauvaises, c'est le peuple qui est mauvais. Hein. Il faudra essayer de changer le peuple parce que le peuple a mal voté. Hein. Rappelons-nous ce qu'on avait dit lors du référendum à propos de la Constitution, hein, où on disait que le peuple était pas bon, quoi. Hein. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il faudrait faire une chose? Est-ce qu'il faudrait dire, voilà, la Chine ne correspond pas à nos outils théoriques montrent bien que sont incapables de comprendre la Chine. Il faudrait changer la Chine. Alors, par rapport à cette... ma question est inverse. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de remettre à plat un petit peu la façon dont on aborde cette question habituellement, dont on analyse de la Chine, pour essayer de comprendre ce qui s'y passe? Alors, vous verrez que je ne donnerai jamais de réponse claire et définitive, hein, au paradoxe que je viens de présenter. Il s'agit ici surtout de dévoiler un petit peu les choses, hein, d'essayer d'enlever les couches successives de paradoxes, d'incompréhensions, de malentendus, de contradictions, de choses pas claires, pour essayer de mieux comprendre. Mais, bien évidemment, mon objectif n'est en aucun cas de vous donner des réponses absolument claires qui pourraient expliquer l'existence de ces paradoxes. Avant tout, ce que je vais essayer de faire, donc ici, c'est de faire de la méthodologie. Hein. C'est-à-dire d'aborder la Chine à partir de concepts particuliers, de schémas d'analyse, de mobiliser un peu des schémas d'analyse que l'on peut trouver à propos d'autres pays, d'autres situations. Alors je vous rassure, hein, on ne va pas passer son temps simplement à faire de la théorie, des choses très embêtantes, très ennuyeuses et très peu pratiques. Au contraire, on va essayer sans cesse de faire des allers-retours, hein, c'est-à-dire certes de faire un petit peu de réflexion et d'un petit peu d'analyse, mais aussi sans arrêt de repartir sur le terrain, de repartir au ras des pâquerettes, de raconter des anecdotes aussi, parce que parfois les anecdotes peuvent permettre de dévoiler un certain nombre de réalités. Mais il me semble que sans principe, sans cadre théorique, on peut difficilement analyser une société, parce que tout simplement la pensée, la réflexion a horreur du vide. Hein. Donc si vous n'avez pas a priori un certain nombre de principes théoriques, une certaine méthode, eh bien finalement cette absence va être remplie de facto pour un certain nombre de choses. Hein. Et toute réflexion préalable, si vous allez en Chine faire un voyage, ou si vous y avez été, vous verrez que très rapidement vous aurez votre avis sur la Chine. Vous aurez votre point de vue sur la Chine. Hein. Donc ça veut dire que autant peut-être se préparer hein, à cette réflexion plutôt que de partir comme ça vierge de toute réflexion et pris au piège finalement d'a priori un peu inconscient hein, de réflexions de bon sens hein, qui vous permettront pas peut-être d'aller jusqu'au bout de la réalité chinoise. Pour ma part, je me rattacherai à une méthodologie qu'on appelle souvent la méthodologie critique, hein, c'est-à-dire la pensée critique ou la théorie critique, c'est-à-dire partir précisément des lieux communs, des courants de réflexion dominants, de ce que disent les médias, de ce que disent beaucoup de chercheurs, et de leur incapacité à nous faire comprendre certaines réalités, c'est-à-dire partir des échecs finalement, hein, des modes habituels de réflexion, du sens commun, du bon sens commun, que l'on peut trouver un peu de partout. Donc, il s'agit de remettre un peu en question ce qui apparaît à beaucoup comme évident, comme vrai, comme non négociable. Hein. Et je vois deux intérêts, moi, à cette méthode. D'abord, elle permet de mieux comprendre les phénomènes contradictoires ou absurdes hein, que je viens de décrire. Hein. Donc c'est l'objectif un petit peu, hein. C'est-à-dire que si un concept, une analyse finalement ne sert à rien, n'a pas de vertu heuristique comme on dit, ça ne nous aide pas à essayer de comprendre une situation, ça ne sert pas à grand chose. Un concept qui ne nous aide pas à comprendre une réalité, c'est un concept dont on peut se passer. D'autre part, je crois que cette méthode critique, ça permet de porter un regard sur notre propre société aussi. Mais ça, je crois que c'est important. On ne peut pas analyser la Chine, on ne peut pas analyser le Maghreb, on ne peut pas analyser l'Amérique latine sans en même temps, justement, avoir un regard critique par rapport au sens commun, par rapport à nous, ce que nous croyons fermement, d'une manière absolument certaine. Donc ce qui se passe en Chine, pour moi, c'est pas quelque chose qui est extraordinaire, qui est mystérieux, qui n'est pas complètement étranger à ce qui a pu se passer, ce qui continue à se passer aujourd'hui en France ou ailleurs. Et on verra qu'il y aura des comparaisons avec d'autres sociétés d'aujourd'hui et d'hier, qui pourraient paraître peut-être un petit peu baroques, hein, j'ai une époque qui écrit des choses, une comparaison entre la corruption en Chine et la corruption en Afrique, par exemple. Hein, ça peut paraître un peu bizarre, un peu curieux. En même temps, on apprend des choses très intéressantes. Des comparaisons aussi entre la corruption en France et la corruption en Chine, par exemple. On voit des choses qu'on n'aurait pas vues autrement, d'ailleurs, dans les deux sens, dans les deux pays. Donc ce que l'on va discuter aujourd'hui, et puis dans les autres cours, je crois, pourra sans doute, hein, ça vous pourrez me dire si ça fonctionne, pourra sans doute vous aider à analyser des situations dans d'autres contextes. Hein. Il ne s'agit pas de devenir un spécialiste de la Chine et de rien comprendre au reste. Je pense qu'on peut comprendre la Chine un peu de la même façon que l'on peut comprendre d'autres sociétés. Évidemment, la société chinoise a des particularités, elle a une histoire, elle a tout ce qu'on veut, etc. Mais les outils, la façon dont on peut réfléchir à propos de la Chine, pas de raison a priori qu'on se trouve dans une situation tout à fait différente de ce qui peut se passer ailleurs. Si on revient à cette notion de critique, aujourd'hui les critiques que l'on peut faire à la façon dont est abordée la Chine s'appuient en fait, ou doit traiter de deux types assez clairs, je trouve, d'approche. Vous pouvez vous-même d'ailleurs faire un test, lire des choses sur la Chine, et vous verrez que beaucoup de journalistes, beaucoup de chercheurs, beaucoup d'analystes, d'hommes politiques, etc., se réfèrent à deux approches pour aborder la question de la Chine. La première approche, c'est ce que l'on peut appeler le culturalisme. Alors le culturalisme, ce n'est pas une école de pensée, hein, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas... pas un regroupement, hein, c'est un ensemble de théoriciens qui se réclament même du culturalisme. Je dirais que c'est un état d'esprit, c'est un principe méthodologique et un principe théorique qui consiste à considérer que toutes les sociétés ont un certain nombre de comportements, de traits de comportement, d'attitudes et de pensées, de façons de voir les choses, et de façon de parler des choses, qui est unique, hein, que l'on peut décrire d'une manière relativement précise, et qui est de nature quasi instinctive. Hein, c'est-à-dire que, spontanément, hein, un Chinois verra les choses de telle ou telle façon. Hein, on entend souvent hein, dans les journaux, les Chinois voient les choses comme ça. Hein, la philosophie chinoise dit que, etc. La façon chinoise d'aborder l'économie, c'est comme ci ou c'est comme ça. Donc on explique la discipline des Chinois par une propension au respect de l'autorité familiale, par exemple. On parle aussi de culture politique. Hein. On dit pourquoi il n'y a pas de démocratie en Chine. Ben parce que la notion même de démocratie est culturelle et que chez... Les bureaucrates chinois qui ont la tête particulièrement dure, cette culture démocratique ne rentre pas, hein, et chez le chinois de la rue aussi sans doute. On parle aussi beaucoup quand on parle des ressources humaines dans les entreprises françaises par exemple en Chine. Moi j'entends souvent les gens dire notre gros problème c'est la culture du respect des chefs chez les Chinois, hein, c'est-à-dire dans une entreprise, le Chinois n'ose jamais critiquer le chef, n'ose jamais remettre en cause la puissance du chef. Hein, donc, des fois, on a presque l'impression que les dirigeants de ces entreprises auraient envie qu'il y ait une espèce de révolution culturelle hein, dans les entreprises et que tout d'un coup on se mette à critiquer les chefs, à remettre en cause les ordres, etc., etc. Moi j'aimerais bien voir la tête un peu de ces dirigeants-là si ça se passait comme ça. On parle aussi de la culture de la corruption. Hein. On leur dit, vous savez, la corruption c'est ancestral en Chine. Hein. C'est quelque chose qu'on retrouve depuis les origines, c'est très vieux, etc., etc. On parle aussi de culture philosophique. Hein. Par exemple, il y a un philosophe français très connu qui s'appelle François Julien, que vous avez peut-être lu, et qui a fait énormément de livres, qui ont beaucoup, beaucoup de succès là-dessus. Il considère que la philosophie chinoise, la philosophie occidentale, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Rien à voir. C'est deux mondes. C'est l'altérité absolue pour nous. Hein. Par exemple, il n'a pas de notion d'individu. Hein, il n'y aurait pas de notion d'individu dans la philosophie chinoise. Donc évidemment, s'il n'y a pas de notion d'individu, il n'y a pas de notion de liberté, il n'y a pas de notion de démocratie, de machin, etc., etc. Donc beaucoup des contradictions dont je viens de parler tout à l'heure peuvent être résolues assez facilement par ce recours à ce culturalisme, parce que tout simplement, ben voilà, pourquoi il n'y a pas de démocratie, pourquoi ça se développe économiquement et pourquoi il n'y a pas de démocratie, parce que les Chinois n'ont pas inventé dans leur culture la démocratie. Hein. Ça n'apparaît pas, c'est pas là, donc c'est pas possible que ça apparaisse dans la réalité. Alors, le problème que pose évidemment cette façon de faire sont extrêmement nombreux. On pourrait passer beaucoup de temps à démonter le culturalisme. Mais j'essaie évidemment de me concentrer sur quelques points. Que pose cet état d'esprit comme problème? Le premier problème, c'est comment définir la culture. Dit les choses autrement, vous allez comprendre assez vite quand même ce que je veux dire, comment définir une identité culturelle. Hein, on a beaucoup parlé d'identité ces dernières années en France. Quand on parle d'identité, on parle exactement de ça. On parle de la culture. Hein, on parle de la façon dont, de comportement, des attitudes spontanées. Même pas besoin de réfléchir dans nos comportements, de nos façons de réagir à telle ou telle situation, etc., etc. Comment définir une identité nationale? Alors, pour la Chine, évidemment, c'est compliqué. Alors, beaucoup de gens simplifient les choses d'une manière simple en se reportant à Confucius. Très pratique, Confucius est là, Confucius était là à peu près au début, bon, pas tout à fait, c'est un vieux par rapport aux premières manifestations de la civilisation chinoise, mais enfin bon, quand même 5 siècles avant Jésus-Christ, un truc comme ça, bon, c'est quand même du solide, c'est quand même assez ancien. Bon, alors Confucius, mais aussi Sun Tzu, dont on parle là, le traité de la guerre, qui permettrait de comprendre la psychologie guerrière des Chinois, et donc la psychologie dans les affaires, etc., etc. Lao Tzu, Zhuang Zi, le taoïsme, enfin toute ce courant philosophique, mais surtout quand même Confucius, parce que c'est le plus simple, le plus facile à comprendre, Confucius. Confucius pourrait nous expliquer absolument tout. Et il y a des gens qui, aujourd'hui, considèrent qu'une fois qu'on a compris la pensée de Confucius, on a compris les Chinois. Bon. Alors évidemment, le problème, c'est, quand on discute avec des spécialistes du confucianisme, c'est quel Confucius? Parce que des Confucius, il y en a beaucoup. Vous pensez bien que, évidemment, imaginez que Aristote soit toujours le philosophe, aujourd'hui, majeur, Imaginez que l'Aristote de l'époque et l'Aristote d'aujourd'hui, ben ma foi, on aurait modifié quand même pas mal de choses. Regardez Nietzsche, le Nietzsche nazi des années 20 et 30, et le Nietzsche, au contraire, libertaire de beaucoup de gens, dont quelqu'un qui va intervenir dans quelques temps. Bon, il y a beaucoup de Nietzsche, et Nietzsche, il est pas si vieux que ça. Donc imaginez Confucius, évidemment, tout ce qui a pu se passer dans la manipulation de Confucius, lui-même n'a jamais rien écrit, c'est ses disciples, et sans doute des disciples des disciples, donc déjà il y a un petit problème. Et puis ensuite, regardez, comparons avec la Bible, personne n'est d'accord sur la Bible, ou pas grand monde, on est à peu près dans cette situation. Donc quel est le bon Confucius? Le Confucius, c'est un problème fondamental. On se reporte souvent à un texte Confucius, et puis on regarde dedans, on dit regardez, voilà, ça marche à tous les coups. Les Chinois, paf, ils sont comme ça, vous êtes dans une entreprise, vous analysez l'entreprise chinoise, paf, ça tombe pile, ils sont comme ça. Alors évidemment, ce qui se pose aussi comme problème par rapport à ce Confucius-là, c'est que évidemment là on est en train de parler de philosophie. c'est-à-dire que connaît de la philosophie de Confucius le paysan, je ne dis pas du 3e siècle avant Jésus-Christ, ou du 10e siècle, mais le paysan chinois d'aujourd'hui, hein. Quelques sentences, qu'est-ce que le vague réminiscence, donc comment fait-on le lien entre le Confucius philosophique et le comportement du paysan. Voilà, ça c'est le genre de problème. Jamais ces problèmes-là ne sont abordés par les culturalistes. Hein. Passer de Confucius à la façon dont le chinois va manger avec ses baguettes, là, personne ne va, ne fait l'analyse hein, qui nous permettrait de passer de cette grande philosophie, cette culture philosophique, à la culture pratique, la culture matérielle qui joue pourtant, comme on sait, un rôle très important dans la société. Alors laissons compter de Confucius, mais essayons d'aller un peu plus justement dans la pratique. Comment fixer la culture chinoise? Comment déterminer la culture chinoise? Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, parce que vous avez d'abord les données géographiques. Hein. Les Shanghaïens vous diront que les Pékinois sont pas vraiment chinois, ce sont des barbares, ils se comportent pas très bien, c'est encore des paysans. Hein. Au contraire, les Cantonais vont vous dire que les Shanghaïens, non, c'est pas vraiment la quintessence de la culture chinoise, etc., etc. Je vous parle évidemment même pas ici du fait qu'il n'existe pas une langue chinoise. Il existe une langue commune chinoise, mais il y a encore beaucoup de Chinois qui parlent des dialectes. Bon. Donc on a même au niveau de la langue, pas d'unification. Je ne vous parle pas évidemment des minorités nationales, ce sont des Chinois. Pourquoi les minorités nationales pourraient-elles pas revendiquer d'avoir la même identité culturelle que les Chinois, puisque l'identité culturelle, c'est aussi aujourd'hui une question de carte d'identité. Bon. Là, je vous parle de la géographie, je peux vous parler aussi de l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la culture telle qu'elle existait, la façon de penser, de se comporter il y a une centaine d'années en Chine et aujourd'hui. Hein. Évidemment, on n'a pas les mêmes Chinois. Hein. On n'a pas, d'abord aujourd'hui par exemple, la plupart des Chinois savent écrire, savent lire, ce qui n'était pas le cas il y a une centaine d'années. Déjà, ça c'est un élément quand même qui est important. Est-ce qu'on peut considérer que le fait d'avoir appris à lire et à écrire ne change pas la façon de voir le monde, la façon de se comporter, etc., etc. Il y a aussi des distinctions culturelles en termes de sexe, évidemment. Hein. Les hommes, les femmes n'ont pas la même culture ici comme en Chine. Il y a des différences de comportement, il y a des différences hein, de réflexion, des différences d'attitude, etc., etc. Il y a aussi des différences de classe. Le fonctionnaire de Pékin ou l'intellectuel de Pékin a le plus grand mépris pour le chinois de base. Bon. Et il considère que ces gens ne font pas véritablement partie de la culture chinoise. Ils ne vous le diront pas comme ça, parce que ça ne se fait pas, bien évidemment. Mais on sent bien que, ma foi, il considère qu'il est, il est sans doute beaucoup plus proche, lui, d'un intellectuel ou d'un fonctionnaire de Berlin ou de Paris que d'un migrant venant du Sichuan travaillant sur les chantiers de Shanghai. Alors, comment réussir à définir à partir de quel corpus, de quel élément, de quel type de Chinois pourrait-on définir l'identité culturelle? Aujourd'hui, c'est évidemment absolument impossible. Donc, une des critiques que l'on peut faire, c'est précisément celle-là. Comment définir, à partir de la culture, déterminer à partir de la culture les comportements des Chinois d'aujourd'hui. Deuxième critique que l'on peut faire à cette vision culturaliste, c'est l'intérêt de la réflexion et de la recherche, voire même de l'échange et de la communication et du dialogue avec les Chinois, si de toute façon ils sont Chinois et puis nous on est Français. peut-être un peu européens aussi. Bon, et puis certains, vers l'Alsace, sont même presque un petit peu quand même pas très loin de l'Allemagne, et puis bon, enfin et puis en Corse, enfin bref, peu importe. Hein. En France aussi, évidemment, on a cette question de définition de l'identité. Alors, à quoi ça sert de dialoguer évidemment avec la Chine? Est-ce que ça sert à quelque chose de comprendre la Chine, puisque les traits d'une société sont fixés à jamais, de manière éternelle, on pourrait dire, et fixés, je dirais, dans les gènes. Hein. Rien n'est plus comparable si on considère que la culture détermine l'ensemble des comportements. Troisième critique que l'on peut faire, ça exclut d'emblée tout changement. Hein, ça justifie absolument tout, la réalité. Hein, la réalité est conforme, évidemment, à ce qu'elle doit être, puisque hein, c'est la culture qui détermine tout. Donc, à quoi bon se battre? Hein, à quoi bon changer les choses? À quoi bon changer la réalité? Puisque la réalité, par définition, est déjà déterminée par quelque chose. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, ça c'est une parenthèse que j'ouvre ici, c'est un peu cette vision un peu culturaliste des choses. Hein, et faites le test, hein, lisez des choses sur la Chine, vous verrez que ça marche hein, assez souvent. C'est une variante du structuralisme, hein, c'est-à-dire, bon, on parle beaucoup moins du structuralisme aujourd'hui, mais cette idée qu'il y a une structure de base dans les sociétés qui peuvent expliquer tout. Hein. Pour les marxistes, c'était l'état des moyens de production qui pouvait expliquer l'ensemble des choses. Pour d'autres, c'était les structures psychiques, hein, etc., etc. Là, c'est la culture, donc qui détermine le comportement des hommes. Alors, pourquoi utilise-t-on souvent ce cadre culturaliste pour expliquer la Chine? Parce que l'intérêt est double. D'abord, on peut rejoindre alors ce que disait je me souviens plus d'ailleurs qui, mais quelqu'un disait que la culture c'est ce qui reste quand il n'y a plus rien. Hein. Je me souviens plus qui disait ça. Bon, vous souvenez peut-être. Bon, peu importe. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire, quand il n'y a plus rien, il y a au moins l'explication culturaliste. Hein. Quand on comprend rien à la Chine, hein, et c'est pour ça que souvent dans les milieux d'affaires d'ailleurs, on aime beaucoup le culturalisme, on aime beaucoup les recettes de ce type-là, et d'ailleurs des gens sont payés extrêmement cher pour faire des conférences dans les entreprises françaises, payés vraiment plusieurs milliers d'euros pour faire des très courtes sessions de formation à la pensée chinoise. Hein, comment les Chinois pensent hein. Parce que précisément dans les milieux d'affaires, on aimerait bien comprendre dans les négociations, on les comprend évidemment, hein, les gens ils doivent se taper évidemment des négociations avec des types qu'ils ne connaissent pas, etc., etc. Donc pitié, donnez-nous des stéréotypes, pitié, donnez-nous des choses pour qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe. Nous on s'est fait avoir par Monsieur Zhang et par Monsieur Li qui nous ont roulé dans la farine, mais où est le secret? Comment ils ont réussi quel est leur secret nous permettant de nous retourner comme ça? Qu'est-ce qu'ils sont forts ces Chinois, etc., etc. Donc effectivement ça permet de tout s'expliquer. Les Chinois ne sont pas comme nous, hein, donc on ne peut pas les comprendre, donc pour les comprendre, eh bien il faut trouver quelques petites recettes. D'autre part, ça permet autre chose, ça permet soit de justifier la supériorité occidentale, soit d'expliquer la supériorité chinoise. C'est-à-dire évidemment, pourquoi il n'y a pas de démocratie en Chine? Parce que évidemment, c'est nous qui l'avons inventé, ça quand même. Hein. Attention, c'est quand même. C'est nous quand même. Hein. Bon. On a inventé quand même beaucoup de choses, hein, voilà. Donc on a inventé l'individu aussi. Hein, c'est nous l'individu quand même. Le sujet, hein, Kant, machin, tout ça, le sujet absolu, le mec qui peut tout comprendre, etc. dans sa tête et tout. Bon, voilà, c'est nous ça. Attention. Bon. Mais à l'inverse évidemment, les Chinois aussi utilisent ce genre d'argument. Hein, pourquoi? Parce que pourquoi il n'y a pas d'élection en Chine? Pourquoi il n'y a pas de démocratie en Chine? Pourquoi il n'y a pas de liberté dans un certain nombre de domaines? Parce que c'est la Chine. Hein. Donc vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Moi j'ai eu une discussion épique, hein, et puis d'autres collègues aussi ont une discussion épique avec des collègues chinois, et l'argument final c'est vous n'êtes pas chinois, il y a un truc que vous n'arrivez pas à piger, et là, ça ne va pas. Hein. Donc, voilà, pourquoi on a ce fonctionnement, parce que ça permet aussi de justifier des points de vue diverses et de montrer soit que les Chinois, en fait, hein, on parle aujourd'hui de stade supérieur de la démocratie en Chine, c'est-à-dire qu'on va créer un système politique qui va être meilleur que le système démocratique. Ben oui, ben parce que vu ce qu'on montre du système démocratique aujourd'hui, quand même avec beaucoup de blocages, avec les histoires d'Europe, etc., avec les Hongrois qui votent pour les gens peu recommandables, avec des trucs bizarres qui se passent à droite et à gauche, finalement, les Chinois disent, ben non, finalement, la démocratie est dépassée, et nous, Chinois, nous allons créer un autre système, un système qui sera bien meilleur. Alors on attend de voir quel va être ce système qui est bien meilleur, mais un certain nombre de gens et des chercheurs, des intellectuels sont persuadés qu'ils vont réussir à trouver la nouvelle formule magique. Alors, quand je parle de culturalisme, évidemment ici, il n'est pas question pour moi de nier l'existence de phénomènes culturels. Il est bien évident que les Chinois sont différents des Français. Mais de quels Chinois parle-t-on? Les Chinois d'en haut, d'en bas, aussi bien géographiquement que hiérarchiquement dans la société. Les Chinois d'aujourd'hui, les Chinois d'hier, les Chinois de demain, des jeunes Chinois, des vieux Chinois, bon, etc., etc. Bon. Et en plus, on sait très bien que, disons que, pour dire ça, les choses simplement, les phénomènes culturels existent, mais ils sont extrêmement divers, extrêmement changeants, que les identités ne sont jamais déterminées, une bonne fois pour toutes, bien évidemment, que chez chaque personne, y compris chez chaque Chinois, il y a des identités et des comportements divers, et en plus, ces traits culturels peuvent être bien évidemment manipulés. On sait très bien, et notamment ça mettait en rage un certain nombre d'auteurs noirs anticolonialistes, que beaucoup de noirs font le nègre. C'est eux qui disaient ça. Ils font le nègre, c'est-à-dire que face aux blancs, une espèce de manipulation de la représentation que peuvent avoir les blancs du noir, et voilà. Et les Chinois, ils font les Chinois aussi parfois. Évidemment, c'est très facile pour un cadre chinois, d'une entreprise qui sait que son alter ego a pris des cours sur la mentalité chinoise, de le rouler dans la farine, parce que on va lui apprendre que oula les Chinois, oula. Alors les négociations sont très 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 longues avec les Chinois, vous savez, c'est long. Donc il n'y a pas de raison de s'arrêter, il n'y a pas de raison de ne pas continuer. Et puis, bon, le gars avec qui vous discutez, là, en fait, c'est pas lui le vrai responsable. En fait, il est derrière, deux, trois places derrière. C'est quelqu'un qui dit rien, etc., etc., etc. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a un jeu autour de la culture que tout le monde pratique. Des fois, eh bien, c'est pratique de faire le français. Des fois, c'est moins pratique de faire le français. En fonction de la situation, même des gens font l'enfant parfois. On parlera de votre psychanalyste. Le faire l'enfant aussi, c'est aussi une identité à un moment donné que l'on retrouve pour, etc. Donc on peut manipuler les éléments culturels. Et les entrepreneurs politiques, les hommes politiques sont extrêmement forts. Évidemment, comme on le sait, aujourd'hui, par exemple, le concept de laïcité, qui est un concept culturel fort en France, est manipulé dans tous les sens, on ne sait plus, on ne comprend plus rien, on ne sait plus où tout ça va. On voit bien que cette laïcité n'est pas inscrite dans les gènes du français, mais que c'est bien une construction intellectuelle et politique, et qu'à ce titre-là, ça peut être manipulé. Hier, le christianisme a été manipulé dans tous les sens. Les valeurs culturelles du christianisme ont été manipulées par les, les gens de toute obédience, hein, on s'est joyeusement massacré entre chrétiens, les anglicans sont apparus à cause d'un mariage, etc. Bon, aujourd'hui l'islam est aux mains d'entrepreneurs politiques qui là aussi le manipulent, l'inventent même dans tous les sens, hein. Je ne sais pas si vous avez lu les articles de gens comme Olivier Roy, si vous avez entendu sur France Culture dernièrement Olivier Roy qui parlait justement de toutes ces questions-là. Il expliquait que tout ce que nous prenons pour des islamistes radicaux, traditionnalistes, etc., ça a à peine une centaine d'années. Bon, l'islam radical, c'est une invention récente, hein, d'entrepreneurs politiques, hein, qui avaient des intérêts pour ça. Etc. Donc, dans toutes ces manifestations culturelles, ce qui est, à mon avis, intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui domine, quels sont les enjeux intellectuels, politiques, économiques dans tout ça, pourquoi les gens font ci et font ça, hein, quelles sont les raisons des pratiques culturelles aujourd'hui des Chinois. Quelles sont les manipulations collectives ou individuelles que l'on peut repérer par rapport à ce magma, on pourrait dire, que représente la culture chinoise. Deuxième élément, parce que là je vois que le temps court, mais dans les questions, hein, contrairement à mon habitude, je vais essayer de laisser pas mal de temps aux questions. Deuxième, je dirais, grand obstacle. Hein, c'est un peu prétentieux comme ça de dire ça, mais je crois que c'est assez vrai. Quant obstacle à la compréhension de ce qui peut se passer en Chine, mais aussi ailleurs, encore une fois, c'est ce que j'appellerais l'évolutionnisme. Alors je ne parle pas de Darwin, évidemment, hein, ici, ou encore ce que l'on appelle souvent la théorie de la modernisation, hein, ou la modernisation, hein, ou les théories de la modernisation. Alors, qu'est-ce que c'est, ces théories? Mais c'est aussi un état d'esprit, hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin de lire des théoriciens de la modernisation pour faire de la théorie, plutôt d'utiliser la théorie de la modernisation. C'est qu'il y a un sens dans l'histoire. Bon. Vous verrez, là aussi, faites le test, lisez beaucoup de des choses sur la Chine, vous verrez, beaucoup de gens, en fait, leur point de départ, c'est qu'il y a un sens dans l'histoire. Bon. Et il y a une fin, évidemment. Il y a quelques années, il y a quelqu'un qui s'appelle Fukuyama, je ne sais pas si vous avez lu ce personnage, qui a affirmé la fin de l'histoire. Les modèles, alors déjà là c'est problématique un peu, mais le modèle occidental, on pourrait dire, de société, maintenant c'est fini, c'est râpé, c'est comme ça. Voilà. Et il a eu beaucoup de succès, hein, c'est un truc, voilà, c'est ça. Bon. Alors déjà, bon, le modèle. Alors amusez-vous à le décrire précisément entre les Japonais et nous, par exemple, voilà, le modèle social chinois, le modèle japonais, français, le modèle. Alors déjà avec les Allemands, on considère qu'on est à 100 lieues, hein, alors que bon, s'il y en a qu'on connaît bien, c'est eux, hein, les Italiens, par exemple, on est aussi à 100 lieues du système social, hein, de la société italienne, très très très, très différente, etc. Bon, on aurait donc cette société, hein, donc qui était évidemment avec une assez vague, puisque quand on veut mettre beaucoup de choses très différentes dans un même paquet, on est obligé évidemment de rester à des, hein, à des notions, je dirais, théoriques assez générales. Donc, il y a une fin, et puis, ben, comme dans le marxisme, hein, le marxisme, ça se rattache, hein, effectivement, mais le christianisme aussi, d'une certaine façon, hein, puisqu'il y a un début et il y a une fin. Voilà, il y a des stades. Hein, on passe de stades, alors ce n'est pas obligatoirement les mêmes stades au même moment, bon, il y a un peu de souplesse quand même dans le truc, hein, mais quand même, en gros, hein, il y a quand même un... Bon, là aussi, je pourrais vous donner des titres d'ouvrages, des gens qui... Surtout des pas mal d'Américains qui ont travaillé sur cette question depuis les années 60, les années 60, 70. Et en gros, en fait, les étapes, c'est à peu près celles que les puissances occidentales auraient traversées. Hein. Donc on aurait là aussi l'individu qui apparaît, on aurait la société civile au moment donné, on aurait la bourgeoisie qui pointerait son nez, les classes moyennes, la classe ouvrière, etc. Tout le monde, voilà, il y aurait à peu près les mêmes phénomènes dans tous les pays. Puis à un moment donné, il y a les démocraties, évidemment, qu'on découvrait, etc. C'est un peu comme dans un conte de fées, si vous voulez. On découvre des choses peu à peu. Alors, évolution des sociétés, donc il y aurait ce sens dans l'histoire. On irait vers, alors on peut collectionner les choses, vers plus de bien-être, vers plus de subjectivité, c'est-à-dire qu'on serait de plus en plus des sujets indépendants, libres, émancipés, de toute forme de domination, peu à peu, plus de liberté, plus de démocratie, plus de rationalité aussi. On serait beaucoup plus rationnel que le paysan, par exemple, du Moyen-Âge, et les Chinois d'aujourd'hui, beaucoup plus rationnels que les paysans d'autrefois, du Sichuan, par exemple. Plus d'organisation aussi, plus de soucis des autres et de soi, plus de compassion aussi, dernièrement, avec l'histoire de la petite fille qui s'est fait écraser, je ne sais pas si vous avez suivi ces questions-là, on dit que les Chinois ils n'ont pas encore atteint ce stade finalement de la compassion, ils sont pas encore là. Plus de technologie, moins de corruption, plus d'honnêteté aussi. Bon. Et aussi un élément très important, c'est une articulation entre les différents éléments. C'est-à-dire que tout ça n'évolue pas séparément, il y a des articulations. C'est-à-dire le système politique, le système économique, le système social doit être en harmonie, d'une certaine façon. Alors c'est assez amusant parce que, vous savez, on se moque beaucoup des Chinois, parce que un des mots d'ordre actuellement, c'est la société harmonieuse. Créer une société harmonieuse, alors ça fait beaucoup rire, parce qu'on dit, une société harmonieuse, c'est bizarre quand même d'avoir envie d'avoir une société harmonieuse, justement, si ça ne peut pas être harmonieux, des conflits, etc. Bon, les individus, ils ne sont pas contents, et tout ça, et puis les gouvernements qui sautent, etc. Mais, quand on regarde effectivement cette théorie de la modernisation, on voit bien que la société finale, donc finalement plus ou moins la nôtre quand même, est une société normalement d'harmonie, où il y a un certain état de la science, un certain état de la rationalité, un certain état de la stabilité politique, de la forme politique, etc. Tout ça est assez bien ensemble, quoi, pour dire les choses. Donc c'est un mouvement qui est guidé par des valeurs qui apparaissent contre d'autres. Alors il y a le bien et le mal, quand même. Je sais qu'en France, on est laïque, etc. Mais il y a beaucoup d'autres pays où on n'a pas honte de dire que l'histoire, c'est la lutte entre le bien et le mal. Aujourd'hui, c'est bien la question qui se pose à la moitié des Américains qui soutiennent le Parti républicain, par exemple. Je sais que l'Amérique, c'est pas un petit pays où ils voient les choses, la lutte entre le bien et le mal, et que le bien va finir par triompher. La répression contre la liberté, l'honnêteté contre la malhonnêteté, l'intérêt contre le souci des autres, l'entraide, etc. La rationalité contre l'irrationalité, on est beaucoup plus rationnel, je disais tout à l'heure, qu'avant. Alors, toute cette évolution de l'histoire, comme une espèce de petite graine germée qui pousse, donne un grand arbre qui est la société actuelle, qui est, pour dire les choses simplement, la démocratie de marché. Donc la démocratie de marché, c'est un système social où il y a le marché qui gouverne l'économie, la démocratie qui gouverne le politique, c'est la forme ultime de la société pour un certain nombre de gens. Alors, évidemment, il y a des gens qui disent des choses comme ça, il y a des gens qui disent des choses un petit peu différemment, ils disent oui, on peut perfectionner ça, on peut modifier ci, on peut modifier ça. Mais, c'est effectivement, on connaît quand même très peu de gens qui remettent en cause la démocratie, globalement. On connaît aussi peu de gens, un peu plus peut-être, qui remettent en cause le marché. On critique le marché, on dit qu'on a un peu trop, qu'il faut un peu réguler, etc. Mais personne ne dit qu'il faut retourner à un contrôle de l'État sur l'économie, par exemple, qui serait l'envers un peu de ce, de cette théorie. Donc, c'est vrai que on considère quand même qu'en gros, hein, quand je dis on, c'est quand même aussi un peu tout le monde ici, hein, que finalement, hein, cette démocratie de marché, bah, voilà, c'est pas mal. Et finalement, si tout le monde était comme ça, ça serait drôlement mieux. Alors, le problème évidemment aussi de ce modèle-là, c'est que il évacue là aussi l'action. Hein. Si y a une histoire qui coule comme ça, à quoi ça sert finalement, hein, d'agir? À quoi bon changer les choses, puisque de toute façon on y va tranquillement? Alors voilà, on peut se dire, bon, on va être l'agent de l'histoire, hein, c'est un peu excitant, hein, en se disant, voilà, on va être dans l'histoire, on va aller dans le courant de l'histoire, et on va aider le monde à accoucher de cette société idéale. Mais ça réduit quand même drôlement l'action, puisque l'action doit toujours être en fonction, hein, de ce mouvement de l'histoire. Autre critique de cet élément-là, c'est que précisément tous les paradoxes que l'on voit en Chine et que j'ai cités tout à l'heure, enfin j'en ai cité quelques-uns, ne sont pas résolus par cette théorie de la modernisation. C'est là que ça coince un petit peu. Hein. Comme je disais tout à l'heure, on a des Chinois très modernes et puis on a des Chinois pas du tout modernes. Hein. On a des Chinois pas du tout démocratiques et puis des Chinois économiquement à des niveaux, etc. Donc l'harmonie dont je parlais tout à l'heure semble problématique, hein, dans ce cas-là. Autre élément aussi, toujours dans cette question des ambiguïtés, c'est que, par exemple, on ne comprend pas pourquoi des démocrates chinois, des gens qui considèrent que la démocratie doit être assez vite, bon, pas tout de suite, mais assez vite quand même, avancée, peut-être pas les élections tout de suite, mais quand même beaucoup plus de liberté de la presse, de la liberté d'association, etc., etc. Des gens qui se battent en Chine là-dessus, par contre, sont des furieux défenseurs du statu quo au Tibet. Voilà. Là, on a du mal à comprendre, puisque quand on est démocrate, on est démocrate. Bon, donc on est démocrate tout le temps, pour tout le monde, à toutes les heures du jour, de la nuit. Bon. De la même façon, aujourd'hui en Chine, par exemple, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui sont les défenseurs des droits des propriétaires d'appartements contre les promoteurs. Hein. C'est des luttes extrêmement intenses, extrêmement fortes, ou aussi des gens qui découvrent que dans leur résidence, ou à côté de leur résidence plutôt, va s'installer une usine et qui se mettent à protester, à faire des pétitions, même à se battre physiquement pour lutter contre. Les mêmes, par exemple, sont furieusement opposés à l'installation de paysans immigrés dans leur entourage, parce que ça fait baisser le prix de leur appartement. Voilà, on a du mal à comprendre, vous voyez, ce genre de choses, s'il y avait ce grand courant de modernisation qui viendrait prendre, saisir d'une certaine façon les gens. On voit bien qu'il y a des ambiguïtés dans les comportements et que les gens peuvent être sur plusieurs, je dirais, types, hein, de considérations politiques. Et puis, on oublie aussi que dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'ambiguïtés, beaucoup de contradictions, beaucoup de choses qu'on a du mal à expliquer par le développement de la théorie de la modernisation. Par exemple, quand on regarde en Europe, dans l'Europe occidentale, la quasi-totalité des systèmes démocratiques, tels qu'ils se sont installés dans ces pays, donc les systèmes, quand je parle des élections, enfin les vrais systèmes démocratiques, ont été mis en place en fait par des gouvernements extrêmement autoritaires. Ce sont des gens antidémocrates qui ont mis en place les systèmes politiques antidémocratiques. L'exemple de la France est extrêmement parlant, hein, c'est après la Commune de Paris, l'objectif, hein, la chambre était au contraire une chambre royaliste, hein, puisqu'on voulait remettre un roi, hein. On oublie ce genre de choses, mais c'est quand même Henri V, on a failli avoir un Henri V. Hein. Si Henri V avait accepté de garder le drapeau tricolore plutôt que de revenir au drapeau blanc, la fleur de lys, on aurait eu une monarchie, hein, en 1871-72. hein, parce que la chambre était une chambre royaliste. Bon, finalement, pour des raisons diverses et variées, mais cette chambre a décidé de mettre ensemble en marche un système démocratique d'élection. Pourquoi ? Eh bien, parce que la France, étant à l'époque un pays essentiellement rural, donc c'est des paysans qui contrôlaient les élections, et les paysans votaient, évidemment, à droite, très à droite, légitimiste, pour les notables, etc., etc. Donc la démocratie n'a pas servi à libérer le peuple, d'une certaine façon, mais au contraire, d'une certaine façon, à enfermer le peuple dans un système. Mais ce système avait un avantage, lequel ? C'est qu'il évitait les aventures révolutionnaires. Plus jamais de Commune de Paris, c'était le mot d'ordre, hein, chez beaucoup de gens. Et donc on voit bien comment, finalement, des très mauvaises raisons ont pu donner naissance à un système que tout le monde considère maintenant comme plutôt pas mal. Donc on voit bien que si on utilise la théorie de la modernisation, là on ne comprend plus rien, hein, parce que les démocrates sont révolutionnaires, puisque c'est eux, ils veulent que ça soit le peuple, hein, directement, qui, hein, et on a au contraire des gens pas du tout démocrates qui mettent ensemble, qui mettent en place un système démocratique. Voilà. Alors, ce que je voudrais noter aussi, c'est que ces deux approches ont des points communs. Il ne faut pas penser qu'on a d'un côté des culturalistes, de l'autre côté des évolutionnistes. Au contraire, je parlerai d'un personnage qui est extrêmement important et qui a d'ailleurs parlé de la Chine à plusieurs reprises, quelqu'un que vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Samuel Huntington, qui est très connu pour deux choses qui sont très différentes apparemment. Il est connu d'abord pour avoir écrit un livre qui s'appelle Le choc des civilisations, qui est un succès énorme, hein, à travers le monde, où il explique que, en fait, aujourd'hui, enfin avant, au niveau mondial, c'était les nations qui déterminaient le jeu, hein, de la gestion du monde, on pourrait dire, et maintenant, c'est-à-dire à partir des années 80, 90, hein, donc maintenant, hein, toujours, ce sont les civilisations. Donc le monde est divisé en 7 grandes civilisations, si ma mémoire est bonne, et ça va être la guerre entre les civilisations. Hein. Bon. Alors donc on a évidemment l'islam, on a les Chinois, mais on a les Japonais qui ne sont pas avec les Chinois, l'Amérique latine est une civilisation en tant que telle, mais les Américains ils sont avec nous, ma mémoire est bonne. Etc. Voilà, donc le choc, je vais dire, alors vous rigolez, mais je veux dire que, écoutez, Huntington est une référence absolue aujourd'hui quand on parle du monde. Alors, il y a beaucoup de gens qui le critiquent, mais le fait même qu'on le critique montre bien qu'il est au centre des discussions. Bon. Donc il est très culturaliste, lui. Alors lui, ça fait pas un pli. Hein. En même temps, c'est un des papes, on pourrait dire, de la théorie de la modernisation. Il a beaucoup écrit là-dessus. Pourquoi ? Alors, comment ça se fait qu'il y a... Non, il n'y a pas de contradiction, parce que pour lui, la culture, c'est quelque chose qui met beaucoup de temps à se mettre en place, donc il peut évoluer. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça, mais peut-être que plus tard, ça sera plus comme ça, et que les civilisations vont changer, et que la démocratisation sera peut-être possible. Et il a écrit d'ailleurs avec d'autres gens un livre aussi qui est une bible aussi pour beaucoup de gens, qui s'appelle La Troisième Vague. Je ne crois pas qu'il y ait de traduction en anglais, et qui est donc la troisième vague de démocratisation, donc après la première vague, hein, bon, etc. Il y a eu la deuxième vague après-guerre, hein, après 45, Japon, Allemagne, hein. Puis il y a la troisième vague qui est aujourd'hui, qui était en fait la vague dans les pays de l'Est, etc. Et tout ça va continuer, évidemment. Il considérait que la Chine allait démocratiser très rapidement, etc. Donc on peut être les deux. Bon. Pourquoi on peut être les deux ? Parce que aussi bien le culturalisme que l'évolutionnisme, la théorie de la modernisation, s'appuie sur des réflexions, des conceptions binaires, hein, très claires. C'est-à-dire que, par exemple, on a la tradition et la modernité. Hein, c'est-à-dire qu'on est traditionnel où on est moderne. C'est deux états vraiment qui sont très différents. On a des cultures traditionnelles et des cultures modernes. Et aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent qu'il y a un choc aujourd'hui des civilisations en Chine entre la culture traditionnelle, Confucius, machin chose, et la culture moderne et que les Chinois n'arrivent pas à passer de l'un à l'autre. Alors là aussi, bon, j'ai pas le temps de discuter, mais en même temps, on voit bien dans l'histoire qu'il y a des choses complètement paradoxales. Hein. C'est-à-dire que les forces dans les colonies, par exemple, hein, il n'y a pas si longtemps, les forces les plus traditionnelles étaient au contraire des alliés des forces coloniales modernes. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui on parle beaucoup de l'islam, etc. L'islam était très 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 proche, au contraire, par beaucoup participé à la colonisation. C'était un allié dans beaucoup de pays de la colonisation. Donc le colonisateur modernisateur s'allie à des forces extrêmement traditionnelles. Ça peut paraître curieux. Bon, à l'inverse, les forces anticoloniales, hein, par exemple, on peut prendre le personnage comme Ho Chi Minh, par exemple, hein, que tout le monde connaît, Ho Chi Minh était un pur produit, je dirais, du modernisme. Hein. C'était un anticolonial, mais il avait fait ses études en France, il était très imprégné de culture française. On peut voir ça aussi, évidemment, en Afrique, parmi toutes les élites africaines. Hein, ils étaient tout à fait aussi français culturellement que d'ailleurs ils écrivaient en français, etc. Enfin, il y avait vraiment etc. Or, on voit bien que les anticoloniaux, hein, ce ne sont pas les plus traditionnalistes, mais c'est au contraire les plus modernes. Hein, bon, là aussi, il y a des trucs un petit peu curieux, et d'ailleurs ces gens souvent vont redevenir traditionnalistes puisqu'ils vont s'appuyer souvent sur la tradition nationale pour créer une identité nationale. Un exemple en Chine, qui est le personnage de Chiang Kai-shek, dont vous avez entendu parler, qui était furieusement moderniste jusqu'en 1949, il voulait transformer la Chine, là. Dès qu'il est retourné à Taïwan, il est devenu furieusement traditionnaliste. Au contraire, aujourd'hui, quand vous allez à Taïwan, vous êtes étonné parce que c'est une espèce de conservatoire de la Chine traditionnelle, etc. Pourquoi ce changement? Ben parce que il a utilisé les ressources de la tradition, notamment confucéenne, l'école, le respect des anciens, etc., etc., pour lutter contre le communisme, qui apparaissait lui au contraire très anti-traditionnel. Donc tu es anti-traditionnel, je me bats avec toi, je vais être traditionnel. Bon. Hong Kong, c'est la même chose. Hong Kong est très traditionnel. Très curieux ça, pourquoi on a conservé les traditions chinoises à Hong Kong, qui est un pays, qui est une région extrêmement moderne, etc. Là aussi, les colonisateurs anglais se sont appuyés sur la tradition chinoise pour mieux asseoir leur pouvoir. Donc on voit bien que ces questions de tradition et modernité sont beaucoup plus compliquées que ça, et aujourd'hui en Chine, le renouveau confucéen, les gens qui parlent le plus de Confucius, on les trouve dans les milieux d'affaires, où ils font des séminaires sur comment gérer les entreprises à partir de Confucius, mais on les trouve aussi dans les milieux les plus branchés chinois, où Confucius a la cote. Être confucéen, être traditionnel, donc c'est super moderne. Bon. Donc on voit bien, hein, on pourrait trouver évidemment en France aussi beaucoup d'exemples de ce genre. Autre dichotomie qui me semble aussi... qui me semble retrouver aussi bien dans le culturalisme que dans l'évolutionnisme, c'est la fracture individu-société. Soit on est un individu libre, soit on est sous la coupe de forces extérieures. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'on va me poser cette question, mais vous oserez plus vous la poser sans doute, on me pose souvent la question suivante, est-ce que les Chinois sont enfin des individus? Est-ce que ce sont enfin des sujets de leur vie? Non mais, voilà, c'est des questions qui se posent, mais qui se posent naïvement de cette façon-là, mais pas obligatoirement naïvement. Hein, on peut trouver, quand on gratte un peu, dans un certain nombre de travaux, parfois assez élaborés, ce genre de dichotomie. Donc, on voit le rapport individu et société comme un jeu à somme nulle. C'est-à-dire, si on est très individu, ça veut dire qu'on n'est pas beaucoup social. D'accord? Bon, bah oui, parce qu'on est libre. Si par contre on est très social, c'est-à-dire très dominé par la société, alors on n'est pas individu. On est moins individu. Bon, ça va tout bête, mais c'est ce que gagne l'un, l'autre perd. Donc, on part finalement de l'idée qu'on pourrait avoir un individu sans société, une société sans individus au départ. On a d'abord des individus, hein, libres, a priori, totalement libres, bon, mais sans société. Donc moi j'ai du mal à imaginer ça. Hein. Absolument. Alors c'est pas moi qui invente ce genre de choses, c'est un sociologue extrêmement important qui s'appelle Norbert Elias, si vous avez l'occasion de lire Norbert Elias. Il faut absolument le faire, notamment un livre qui s'appelle La société des individus, où il traite de ce genre de choses et où il donne donc je m'inspire un peu de lui. Alors on a du mal à imaginer un individu sans société, hein, un individu absolu au départ, et puis on a du mal quand même à imaginer une société qui serait sans individu aussi quand même. Alors comment peut-on séparer les deux? Parce que la société n'est pas évidemment le produit des individus, et en même temps les individus le produit d'une société. Hein, bon. Expliquer comme ça, ça paraît effectivement, mais c'est comme ça souvent qu'on aborde la question. Hein. La question de la liberté est toujours abordée comme ça. On ne pose jamais la liberté par rapport à quoi? Est-ce que les Chinois sont plus libres qu'avant? Mais par rapport à quoi? Par rapport à quel type de pouvoir? Par rapport à quel type de situation? C'est une question quand même qui n'est pas inintéressante. Hein. Parce que dans notre monde moderne à nous, est-ce que l'individu est libre? Est-ce que l'individu n'est pas sous la coupe? Je ne parle pas de la police, choses comme ça, mais je parle des masses médias, de la publicité, de la mode, d'Internet aussi. Hein? Est-ce que tout ça, finalement, n'est pas une forme de domination, hein. Et c'est, encore une fois, c'est pas moi qui dis ça, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ces questions-là dans les années 20, dans les années 30, l'école de Francfort, etc. C'est la question de savoir si, finalement, on est plus libre qu'avant. C'est une question, évidemment, qu'on peut se poser. Alors, pour expliquer les vrais rapports entre individus et société, enfin les vrais, essayer de comprendre comment ça peut fonctionner éventuellement, Elias prend une métaphore très simple. C'est la métaphore du jeu, et notamment du football. Il aime beaucoup le football. Hein. Il a été allemand au départ, mais il s'est réfugié en Angleterre, et donc évidemment, il est devenu anglais, donc là, il s'est mis à beaucoup aimer le football. Le football, c'est-à-dire le football, celui, finalement, qui connaît le mieux les règles du football, les règles au sens, les règles tactiques, hein. Excusez-moi pour les gens qui ne sont pas férus de football, les règles tactiques, hein, il y a des règles, c'est bien le 4-4-2, le 4-3-1 et tous ces trucs-là. Bon, donc, comment faire aussi les règles au sens quand j'ai deux adversaires, il faut d'abord qu'on dribble un, éventuellement l'autre, voir aussi par rapport à la position des gens sur le terrain, les adversaires, etc., etc., ce qu'on appelle la vision du jeu, hein, mais qui est finalement une appropriation des règles du jeu sur un terrain de football. Finalement, celui qui est qui connaît le mieux, c'est celui qui va être le plus considéré comme un joueur de génie, c'est-à-dire qui va sortir du lot, c'est-à-dire celui qui va être le plus individu, le plus sujet, le plus messie, pourrait-on dire, d'une certaine façon, hein. C'est pas celui qui va rentrer sur le terrain et puis qui va faire ce qu'il veut, boum boum boum, non, ça c'est, alors si je vous dis que ça, c'est que vous ne connaissez pas le football, c'est au contraire celui qui va être totalement imprégné, je dirais, du jeu lui-même, des règles du jeu. Donc c'est pareil, nous explique Elias, celui qui comprend bien les règles de la société, donc celui qui est totalement dominé par la société, c'est souvent celui qui est le plus individu, c'est-à-dire qui va être plus à même d'agir intelligemment à son profit dans la société. Bon. Donc, on voit bien que ce rapport entre individu et société est un rapport qui est complexe, hein, et que l'on ne peut pas séparer ces deux éléments. Troisième binôme, on pourrait dire, analyse binaire, c'est la question du matériel et de l'imaginaire. Hein. Dans nos façons de penser habituelles, c'est séparé. Hein. L'imaginaire, c'est le sentiment, hein, c'est les grands sentiments, l'amour, etc. C'est la philosophie, c'est les grandes idées, etc. etc. Puis tout en bas, hein, il y a le matériel. Hein, c'est comme le corps et l'esprit, ça aussi, vous avez suivi des cours de philosophie. Il y a des gens très très bien qui vont vous expliquer aussi ces questions. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais cette idée que le corps est séparé de l'esprit, par exemple, quand même une idée qui est extrêmement forte hein, dans la façon dont on aborde les sociétés, c'est quelque chose aussi qui nous apparaît comme évident, et en même temps, quand on y réfléchit, hein, là aussi, on peut difficilement imaginer un esprit sans corps et un corps sans esprit. Hein. C'est assez difficile hein, à imaginer. Donc on a effectivement, souvent dans les sciences sociales, cette idée que l'on va pouvoir séparer le monde des idées, le monde des représentations, hein, le monde de la gratuité, on pourrait dire, hein, et puis, au contraire, le monde, je dirais, du matériel, de l'intérêt, etc., etc. Pourtant, alors là aussi, hein, on dit aux Chinois, est-ce que les Chinois ont abandonné un peu cet attrait pour le matériel, ou est-ce qu'ils commencent maintenant enfin à s'intéresser à des grandes idées, hein, à devenir donc là aussi des individus, des sujets qui peuvent penser par eux-mêmes, etc. Je dois dire d'ailleurs que je suis en train, complètement par hasard, de relire beaucoup de témoignages de Français qui habitaient en Chine dans les années entre 1900 et 1940. Et justement, cette question-là, c'est une question qui est assez forte, fortement exprimée. C'est-à-dire qu'il y a une vision extrêmement raciste, mais au point que vous ne pouvez pas imaginer les Chinois. Hein. Alors c'était rigolo aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on dit les Chinois, qu'est-ce qu'ils sont forts, qu'est-ce qu'ils sont comme ci, qu'est-ce qu'ils respectent les règles, etc. Qu'est-ce qu'ils sont... C'est exactement l'inverse qu'on racontait à l'époque. Les Chinois, ils s'en sortiront jamais. C'est vraiment des animaux. C'est des gens vraiment qui sont encore dans la fange. Ils voient que l'intérêt à court terme. Ils n'ont aucune imagination. Ils sont... C'est absolument... Malheureusement, ces livres ne sont pas réédités, parce que ça vaudrait vraiment le coup de faire ça, voir comment on abordait ces questions. Alors c'est un peu caricatural, mais en même temps, je crois que ça n'a pas complètement disparu, cette façon de renvoyer toujours les gens, et notamment les Chinois, une espèce de hiérarchie qui nous fait passer un peu de stade animal, où on s'intéresse qu'à manger, à boire, etc. Peu à peu, hein, on s'élève, je dirais, hein, dans des choses un peu comme ça... élaboré. Pourtant, on sait très bien que toutes ces notions sont un peu compliquées quand on aborde, par exemple dans la famille. Dans la famille française, comment faire la part entre les relations qui sont d'ordre purement matériel et d'ordre purement affectif? Est-ce que quand on est un père par rapport à ses enfants, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de temps en temps aussi un peu des intérêts matériels dans la façon dont ils éduquent leurs enfants, hein, qu'ils les préparent à réussir dans la vie, là. Est-ce que c'est complètement désintéressé ou un petit peu... À l'inverse aussi, les parents, les enfants par rapport à leurs parents, s'ils obéissent bien à leurs parents, est-ce que c'est pas aussi à cause de l'héritage ou parce qu'ils les aiment beaucoup, etc. Enfin, on sait très bien, si vous voulez, qu'il n'y a pas de... C'est pas comme ça tranché, on verra pour le mariage aussi, est-ce que c'est le règne aujourd'hui dans une société développée du mariage par amour, la passion totale, est-ce que les objectifs matériels, etc., ont pas aussi leur part, ça se dit pas, mais est-ce que ça fonctionne pas, etc., etc. Bon. Donc on voit bien que là aussi, les questions, les différences entre intérêt je dirais imaginaire, idées, sentiments, etc., ne sont pas aussi... alors, on pourrait continuer comme ça, hein, mais je vais laisser du temps donc pour la discussion. On pourrait continuer longtemps comme ça, hein, en trouvant des couples, par exemple, rationalité et irrationalité. Vous voulez, bon, aujourd'hui, par exemple, les Américains, vous avez une bonne partie des Américains qui ne croient pas à l'évolution, qui sont créationnistes, qui sont totalement irrationnels. Bon. Ces gens-là sont-ils irrationnels? Ben, ils sont rationnels dans un cas, ils sont rationnels dans d'autres. C'est-à-dire que c'est pas des gens en même temps qui vont ne pas prendre de médicaments, ne pas faire traiter, ou quand ils vont faire des affaires, ils sont extrêmement rationnels, bien équilibrés, etc., etc. On voit bien aussi que ce couple rationnel-irrationnel n'est pas très évident. On pourrait aussi la différence aussi très importante entre l'économie et politique. On a tendance toujours à opposer absolument les deux. L'essai du domaine de l'économique, ça n'a rien à voir avec le domaine du politique. Bon, c'est souvent des différences binaires comme ça, hein, qui sont mises en avant. Est-ce que c'est vrai dans nos sociétés? Est-ce que c'est vrai de partout? Est-ce que c'est vrai tout le temps, systématiquement, dans tous les domaines? La question est importante. Alors, pour conclure donc cette séance, ce que je veux dire là, c'est qu'il ne s'agit pas de tomber dans le relativisme absolu, c'est-à-dire qu'on n'y comprend que dalle, le rationnel est dans le rationnel, et le moderne dans le traditionnel, le machin dans le truc. On va essayer évidemment de comprendre comment tout cela fonctionne, mais je pense qu'il est important d'avant de remettre en forme les choses, de remettre le puzzle un petit peu en ordre, pas complètement, hein, ça je vous l'ai dit depuis toujours, on ne va pas arriver à une autre construction bien propre, on va pouvoir tout expliquer ce qui peut se passer, parce que je ne suis pas Dieu, hein, je n'ai pas un regard hein, de l'extérieur, je suis... formule de Foucault là-dessus qui est très intéressante. Il explique qu'on est un peu le philosophe, enfin lui disait le philosophe, mais on peut dire ça de tout le monde d'ailleurs. Celui qui essaye de réfléchir, c'est un peu comme un poisson dans un bocal, hein. C'est-à-dire que malheureusement il ne peut pas passer de l'autre côté du bocal pour voir les poissons rouges, hein. Bon. Donc c'est le type qui réfléchit. Quand je dis type qui réfléchit, c'est tout le monde, hein, qui réfléchit. On est un peu comme ces poissons, hein, hein. On est dans le bocal en même temps. On peut pas sortir du bocal, hein. On peut pas reconstruire toute la complexité de la réalité. En tout cas, moi, je considère ça comme ça. En tout cas, ce qu'on va essayer de faire, c'est mettre un petit peu d'ordre quand même dans tout ça, à partir des pratiques, à partir des actions des Chinois, des discours, c'est-à-dire repartir un petit peu de ce qui fait finalement le corps réel de la société chinoise, c'est-à-dire bah, des Chinois qui agissent, des Chinois qui pensent, qui parlent, qui font un certain nombre de choses, et à partir de tout ça, essayer de reconstruire un peu des explications, des schémas d'analyse qui peuvent expliquer toutes ces pratiques et toutes ces différences. Alors, juste une chose à propos des différents titres, hein, des quatre séances futures. Donc on m'avait demandé, Françoise m'avait demandé de faire des titres un peu sexy, m'avait-elle dit, hein. Mais je suis seul quasiment à avoir fait des trucs sexy, j'ai regardé, hein. Donc voilà, donc je suis désolé d'être le seul sexy, bon. Les Chinois font-ils partie de notre monde? C'était aujourd'hui, hein, le titre, hein. Est-ce que ces Chinois sont on peut les comprendre? Donc la réponse évidemment est oui, à condition, hein, d'oublier un certain nombre de choses. La prochaine séance, ça sera être chinois ne fut pas un dîner de gala. Alors ça, c'est un jeu de mots avec une phrase de Mao sur le dîner de gala. La révolution n'est pas un dîner de gala, et effectivement, on peut dire que la révolution n'a pas été un dîner de gala. Et l'objectif là est de faire un parcours un peu historique depuis 1949, un peu rapide, mais surtout essayer de saisir les grandes évolutions. Hein, je ne vais pas vous faire de l'histoire, encore une fois, mais les grandes évolutions qui peuvent expliquer un peu un certain nombre de choses, hein, parce que quand on parle de... J'ai rien contre expliquer un certain nombre de phénomènes actuels par l'histoire, pas du tout. Mais souvent, à quoi bon aller chercher Confucius pour expliquer des choses qui sont souvent finalement relativement proches, hein, parce que faut faire une distinction. C'est un de mes collègues qui s'appelle Romain Bertrand qui fait cette distinction entre quand on parle de l'histoire, hein, et de l'influence de l'histoire sur les comportements des contemporains, il faut faire la différence entre ce qu'il appelle la continuité, c'est-à-dire les phénomènes qui durent une génération, deux générations, trois générations, et qui après qui disparaissent, parce que nous on a de la chance, on a nos grands, enfin il y a les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc. Mais avant c'était encore plus réduit, c'est-à-dire que il y avait beaucoup de gens qui n'avaient aucune formation par leurs grands-parents. Donc, Où passe l'histoire? Parce que l'histoire, elle passe peut-être dans les grands événements, mais elle passe aussi dans une famille où le grand-père va vous expliquer comment on pêche, comment on scie, comment il faut passer de ça. Il vous raconte 68 maintenant, hein, les gens de 68 maintenant, ils sont grand-pères. Mais même aujourd'hui, je veux dire que ça va être trois générations. Oui. Bon. Ça, c'est de la continuité. C'est-à-dire on peut voir précisément un certain nombre de choses qui passent. Et puis, après l'influence de l'histoire, et là on entre dans ce que l'on appelle la réinvention de l'histoire. Hein, par exemple, l'exemple actuel c'est Jeanne d'Arc. Regardez, la réinvention de l'histoire c'est extraordinaire, Jeanne d'Arc. Hein, Jeanne d'Arc, c'est à la fois une prolétaire révolutionnaire, enfin j'exagère un petit peu, mais enfin on pourrait y aller, jusqu'à la créatrice de la nation française en passant par je sais pas quoi. Une vierge guerrière, enfin, réincarnation de la Vierge. On pourra raconter n'importe quoi là-dessus. Enfin, je veux dire que c'est la réinvention. Là, c'est de la réinvention, c'est pas de la continuité. Là, voilà, il y a un travail qui est fait, il y a un travail conscient qui est fait d'invention de l'histoire. Et pour la Chine, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, les Chinois, voilà, aujourd'hui, ils sont très attachés à leur famille, à leur groupe d'amis, etc., etc. C'est une vieille tradition chinoise. Ben non, il suffit de regarder comment les Chinois vivaient dans les années 60 et 70, enfermés dans ce qu'on appelait une unité de travail, où les gens naissaient dans une unité de travail des parents, étaient souvent travaillés ensuite eux-mêmes dans l'unité de travail des parents, etc., qu'il y avait une espèce de village urbain qui se créait, les gens sortaient jamais quasiment, ils faisaient du sport, ils se mariaient entre eux, etc. Bon, aujourd'hui, le fait que ce réseau de relations est extrêmement important vient peut-être, c'est une hypothèse, peut-être simplement de ça, plutôt que d'aller mobiliser. Là, on a de la continuité. Là, on peut expliquer les choses parce que c'est récent. Ça date des années 50. Donc c'est pour ça que c'est important, je crois, de parler aussi de ce qui s'est passé dans les années 50, 60 et 70. On oublie ça. Hein. Souvent, on considère que finalement, ça a été une espèce d'intermède. Hein. Depuis la fin des années 70, la Chine a repris le cours normal de son histoire, finalement. Il y a eu une espèce de zone, là, bon, pas très intéressante, il s'est passé des trucs, mais bon... Hein, finalement, bon, c'est des trucs de stalinien, quoi. C'est des trucs comme ça. Bon, ça a pas. Quel que soit le jugement qu'on peut porter sur l'époque, ça a été bon, ça a été mauvais, etc., ça on s'en fout. Hein. L'important, c'est l'impact que ça a pu avoir sur les Chinois d'aujourd'hui. Et ça, là-dessus, on ne peut pas considérer que ça a été un intermède, hein, que l'on peut passer comme ça sous silence. Donc l'histoire, c'est important, hein, mais encore une fois. On va se concentrer sur l'histoire récente. Troisième séance, qui peut réussir dans la société chinoise, ça c'est pas très sexy, hein, j'ai pas réussi à trouver un truc. Bon, ça veut dire, aujourd'hui c'est ça, c'est-à-dire c'est les questions de stratification sociale, de classe sociale, de migrants, de qui aujourd'hui, hein, comment on fait pour réussir dans la société chinoise, hein. Réussir, ça ne veut pas dire obligatoirement devenir millionnaire, parce que s'il n'y a que des millionnaires, évidemment, il n'y a plus de millionnaires, par définition, c'est le paradoxe. Hein. C'est un regard un peu sur la société chinoise contemporaine. Quatrième, c'est justement, les Chinois sont-ils enfin des sujets, hein. Donc c'est la grande question. Hein. Les Chinois sont-ils libres, hein. C'est des questions un peu bêtes comme ça, mais vous allez voir qu'en posant des questions bêtes, justement, on réussit à avoir des réponses peut-être pas intelligentes, mais enfin un peu moins bêtes. Hein. On va être modeste ce soir. Et enfin, la grande question politique, hein, pourquoi les Chinois aiment leur régime mais détestent leurs fonctionnaires, hein. Ce qui peut paraître curieux, mais enfin, je vous ferai remarquer que les Français sont exactement pareils. Ben ouais. Qui remet aujourd'hui en cause le système démocratique? Certainement pas les gens qui font grève, qui manifestent, qui sont mécontents. Certainement pas. Bon, donc vous voyez bien qu'on peut être à la fois super conservateur, hein, conserver notre système démocratique, et en même temps super contestataire. Donc c'est pas si impossible qu'on ait ce genre de choses. Voilà. Donc la question politique, etc. Voilà. Merci.